Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à la première soirée, première rencontre de la nouvelle saison culturelle 2014-2015 de la Bibliothèque universitaire des langues et des civilisations. Nous avons le plaisir de commencer aujourd'hui un nouveau cycle de rencontres et de conférences autour de la traduction, un cycle que nous espérons voir vivre sur plusieurs saisons, tant le sujet est vaste et passionnant, comme vous allez vous en rendre compte ce soir. Si vous voulez d'ailleurs plus de détails sur ces futurs rendez-vous, vous avez la brochure de saison qui se trouve à l'entrée de la salle, ou bien vous pouvez consulter notre site internet. Mais parlons de ce soir, et ce soir de ce premier rendez-vous, pour lequel nous avons le plaisir de vous inviter à entrer dans les coulisses de la traduction de la langue vietnamienne. Alors pour vous qui connaissez donc ou la bibliothèque, ou la découvrez, ou découvrez le pôle des langues et civilisations qui abrite l'Institut national des langues et civilisations orientales, vous ne serez pas surpris par le fait que la bibliothèque conserve ici dans ce bâtiment un très grand fonds vietnamien issu des collections donc, de la Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales, de l'École française d'Extrême-Orient et de l'UFR des langues et civilisations de l'Asie orientale de l'Université de Paris Diderot. Et donc, sur ce fond, la littérature est très présente. C'est pour ça que nous sommes d'autant plus ravis ce soir d'avoir une rencontre qui nous permette de rentrer dans un aspect de la littérature vietnamienne et de s'interroger donc, sur la traduction et les joies et les difficultés de traduire cette langue. Et avec un cas très concret qui est la traduction donc, d'un roman qui a connu beaucoup de succès au Vietnam et qui en souhaite beaucoup de succès aussi en France, Une bien modeste famille, de l'auteur, pardonnez-moi la prononciation, Zanian. Ce roman, donc publié dans la collection Sémaphore, une collection née de la collaboration entre les éditions Interval, le Centre d'études et de recherche sur les littératures et oralités du monde, et le Centre de recherche Europe-Asie de l'INALCO. Alors, Madame Zanian, l'auteur, ne peut malheureusement pas être présente parmi nous ce soir, mais nos traducteurs vous réservent une petite surprise. Donc cette rencontre entre traducteur et auteur sera animée par l'éminent traducteur qui est Patrick Morus, également professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et avant de leur passer la parole, je voudrais également remercier Monsieur Phan Huy Donc, écrivain et traducteur, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous également ce soir. Et donc je passe la parole à Patrick pour animer cette soirée. Merci.
Ben finalement, la prononciation, ça va ? Nous étions tous les deux totalement terrorisés à l'idée de prononcer du vietnamien devant un public averti. Elle s'en est très très bien tirée. Moi, je n'ai pas encore commencé, mais j'essaie de profiter de l'élan. Bonsoir à tous, public vénéré et respecté. Nous faisons ce soir un certain nombre de premières, il est vrai, grâce à la BULAC. Nous commençons notre nouvelle année. C'est aussi la première fois, enfin c'est la première manifestation publique du travail fait en commun dorénavant avec l'INALCO, ou du moins certains morceaux de l'INALCO, et en particulier les littéraires. Et nous avons essayé de vous présenter au cours des mois qui viennent des écrivains largement inconnus. Un écrivain inconnu, ça veut dire que nous sommes ignorants, c'est ça que ça veut dire. C'est pas lui qui ne s'est pas fait connaître, mais aussi des travaux qui sont reflétés par le titre qui a été choisi pour aujourd'hui. Non seulement un auteur et son traducteur, mais c'est même écrit dans l'autre sens. Un traducteur et son auteur, pour une fois que l'on donne un petit peu la parole à cette espèce méconnue et priée de le rester. Dans nos travaux ici, dans différents étages, on ne va pas rentrer dans les détails, nous avons tenté de créer une formation pour formation pour la traduction littéraire. Et le livre qui vous est présenté aujourd'hui a aussi comme caractéristique d'être le premier livre qui sort de cette formation et qui donc a été traduit par une personne et demie ou deux personnes, ils vous l'expliqueront tout à l'heure, qui, il y a très peu de temps, était étudiant dans cette maison. Et c'est quelque chose qui, c'est un outil qui, pour nous enseignants, est quelque chose de tout à fait extraordinaire de pouvoir dire aux étudiants, regardez, les bouquins sont là, ils existent, et vous pouvez avoir une formation sérieuse et arriver jusqu'à la publication. Et le dernier point, c'est une évidence quand on ouvre un débat comme ça, mais croyez bien que c'est absolument sincère, c'est un bouquin tout à fait formidable. Alors j'ose pas, j'ai dit bouquin pour ne pas l'appeler roman, parce que ce sera une des questions qu'on va poser tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a du roman au Vietnam, ou je ne sais pas si le mot roman français rend compte des fictions ou des narrations au Vietnam. Mais c'est un bouquin absolument extraordinaire, un portrait de femme qui est rare, à tout point de vue, une mère courage un petit peu acintrée, mais qui est tout à fait intéressante. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a parlé tout à l'heure d'une surprise. Donc c'est Charlotte qui va prendre la parole tout de suite, parce que c'est elle la responsable. S'il y a des critiques ou des plaintes, c'est à elle qu'il faut les adresser. Et elle va vous expliquer comment elle a fait en sorte que l'auteur soit présente parmi nous ce soir. Charlotte.
Merci beaucoup. Merci à la Bulac d'avoir choisi une bien modeste famille pour initier ce cycle de conférences à la traduction. Merci à Michel Fournier et à Patrick Maurus, professeur d'INALCO, à Fabidou, écrivain et traducteur que tous les amateurs de la littérature vietnamienne connaissent bien. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'auteur Zhang Nhan, à son œuvre, et à Zadine Bemon, traduit sous le titre « Une bien modeste famille ». Tout d'abord, je voudrais juste, en quelques mots, résumer le roman. Une bien modeste famille est un roman de mœurs, sous fond historique, écrit dans un style captivant et sensuel. Son thème est la lutte d'une femme pour son émancipation dans une société vietnamienne en mutation. L'action se déroule vers le milieu des années 60 jusqu'au début des années 2000. Comme vous a dit tout à l'heure Joël, l'auteur Zhang Nhan n'a pas pu venir à Paris. Nous avons fait sa connaissance à travers une vidéo. Mais auparavant, je souhaite vous la présenter en vous racontant une anecdote. J'ai choisi de traduire Zadine Bemon pour trois raisons. Pour son thème, pour son écriture, mais aussi pour son auteur, Zhang Nhan. J'ai aimé ce qu'elle a à dire. J'ai aimé la manière dont elle le disait. J'ai aimé sa personnalité. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Je me souviens d'une de nos rencontres qui restera dans ma mémoire comme celle d'un cocktail explosif. Je m'explique. Ce jour-là, nous étions dans un restaurant, nous devions, Zhang Nhan et moi, prendre la décision de travailler ou non ensemble. Nous étions dans un restaurant dans un quartier de Ho Chi Minh Ville, un quartier peut-être que Zhang Nhan ne fréquentait pas souvent. Zhang Nhan était en train de lire le menu quand tout d'un coup, elle émit un cri. Ils ont osé. Et elle me montrait le nom d'une boisson, le nom d'un cocktail, le B52. Et puis Zangan ne fit plus aucun commentaire. Mais moi, j'ai compris. J'ai compris que cette femme refuse l'inacceptable. J'ai pressenti que les mots n'ont pas la même connotation, n'ont pas le même sens chez les individus. Et ce jour-là, j'ai compris aussi que je souhaitais traduire Zangan et porter son témoignage vers vous, public français. Alors, je vous propose, nous allons faire de plus amples connaissances à travers ce film, connaître l'auteur, savoir aussi son rapport sur la traduction. Ce film, je l'ai réalisé il y a 3 semaines au Vietnam.
La parole dans une seconde. Ah, la lumière revient. Je vais repasser la parole tout de suite à Charlotte pour qu'elle nous raconte la suite de l'histoire. Je m'interrogeais simplement pour savoir si les membres les plus jeunes de l'assistance publique ont compris l'anecdote du B-52. Ah non ? Bah attends, non, un des. C'est une vraie question de fond. Charlotte et quelquefois Claude ont travaillé de façon très, très, très approfondie sur ce qui devait être dit en notes dans leur texte. Et la plupart des lecteurs, les notes sont extrêmement utiles. Il se trouve que malheureusement, je suis né avant eux, limite. Et donc, quand j'étais étudiant, c'était la guerre du Vietnam, et tous les mots qui sont dans le texte, je n'ai pas du tout besoin d'une note, la fête du tête ou autre chose. Et je ne suis pas sûr non plus que les plus jeunes d'entre vous savent forcément ce que c'est qu'un B-52, ni ce que ça a de scandaleux de boire un B-52. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, le B-52, c'était des bombardiers. Et le nom des bombardiers américains qui ont massacré, enfin qui ont tapissé le territoire vietnamien, en particulier de Napalm. Et aujourd'hui, savoir que des jeunes Vietnamiens vont boire un cocktail qui s'appelle B-52 est effectivement une considération qui peut poser quelques problèmes à quelqu'un dont le temps qui passe... La trajectoire d'une femme dans le Vietnam qui est en train de changer et une relation du Nord et du Sud qui est en train de changer est justement un des sujets fondamentaux. Tu veux
juste dire un mot sur cette histoire du B-52, parce que quand vous lirez le livre, vous verrez qu'il y a un passage crucial. C'est le moment où, en fait, Thiep, qui est l'héroïne principale, connaît les joies de l'amour, et ils sont dans un trou de B-52, et entourés de combats, et ils ont cette espèce d'élan vital, et je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est arrivé à Zangun, je pense que vous ne m'avez pas demandé quand elle s'est fait déflorer, mais c'est très fort dans le roman, et je pense qu'elle part d'autobiographie, je pense qu'elle a eu quelque chose dans
J'allais dire quelque chose que je regrette. Je ne suis pas sûr du tout qu'elle soit encore déflorée. Mais enfin, je ne suis pas observateur.
Allez. Bon, tu as bien le côté un petit peu incisif de Claude. Bon, donc c'est pour ça, pour vous expliquer que je pense qu'elle a aussi réagi à cette histoire de B-52 parce qu'elle l'a vécu dans sa chair. Elle l'a dit. Depuis 14 ans, elle a été, en fait, elle a rejoint les forces de guérilla du Sud, du côté de Hojiang, donc tout à fait dans le Sud. Et elle était au cœur de la poche de résistance, enfin, le centre de résistance de la forêt de Huming. Je suis désolé de cette...
Non. Comme quoi, ça permet d'aborder tout de suite des tas de questions. Je repasse tout de suite la parole à Charlotte, non sans avoir signalé que nous avons un micro-baladeur.
C'est moi, je le tiens. Il est à votre disposition.
Et que vous ne devriez pas vous retenir de poser des questions quand elles vous viennent. On n'est pas obligé de tout classer toutes les questions à la fin de cette séance. Si vous avez une question urgente, surtout, intervenez immédiatement. Chacun d'entre nous se laissera couper facilement la parole, sauf peut-être Michel, mais bon.
On verra. Coup de
B52. Ce que je vais faire, je vais passer la parole à Femme Guido. Femme Guido, écrivain et traducteur des auteurs très connus, tels que Baonin, Zuntuhu. Monsieur Femme Guido, vous connaissez bien Zhang Yan. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? Et surtout, pouvez-vous nous la situer par rapport aux écrivains de son temps, s'il vous plaît?
Tout d'abord, permettez-moi de remercier les traducteurs. Charlotte Dan, Philippe Claude. Grâce à leurs travaux, voilà un nouveau roman vietnamien qui se met à exister dans la langue française. C'est rare. Et ce roman le mérite. Ils ont livré une belle traduction. De notre temps, le capital financier traverse des frontières, va d'un pays à l'autre en quelques clics, laissant souvent des ravages. Ce qu'il emprunte, le chemin de la fibre optique et des signaux satellites. Mais une œuvre littéraire pour traverser une frontière, une seule, demande souvent des années, parfois des dizaines d'années. C'est que nécessairement son chemin passe par le cœur et l'esprit des humains. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas traduire automatiquement, même si on a de très bons programmes de traduction. Donc, c'est à travers cela, ce travail et cette contribution seulement, que nous avons accès à une partie, toute petite partie de la culture humaine de notre temps. Évidemment, pour un pays comme la France, sa culture passe les frontières très vite. Un bon roman français est tout de suite traduit en vietnamien. L'inverse n'est pas vrai. Donc, je salue ce travail. En ce qui concerne ce roman, bien sûr, je l'ai lu avec passion et je l'ai tout de suite présenté en langue vietnamienne sur mon site web, avec la permission de l'auteur, bien sûr. Un couple que je connais, qui sont de bons amis. Il y a dans ce roman, par deux fois, une idée que je trouve importante et qui questionne tout Vietnamien, femme ou homme. La première fois que cette idée est apparue, c'est quelques pages, c'est à la page 89. Elle concerne le respect de soi. C'est une question qu'une femme se pose devant la vie, devant son existence, dans un contexte historique et culturel déterminé. C'est le genre de question qui se pose à tout le monde, à n'importe quelle période de l'histoire, dans n'importe quelle situation et culture. et Zangan lui a apporté une réponse qui lui est propre. C'est une réponse, la réponse d'une femme qui sort du 19e siècle vietnamien pour plonger directo dans le 20e et le 21e à travers une guerre terrible pour aller dans un monde aux contours non définis. Devant cette situation, comment se pose pour son contenu la question du respect de soi? Cette question la concerne et elle a exprimé en langage. C'est-à-dire, elle lui a donné une forme d'existence accessible à d'autres. Et c'est à travers cela que la question va questionner tout Vietnamien, homme ou femme. Quelle est, dans la situation actuelle, en 2005-2006, pour un Vietnamien, que signifie le respect de soi? Mais à travers une histoire, un roman, la question se pose aussi au lecteur, où qu'il soit. Dans la situation française actuelle, j'ai l'impression qu'il y a une crise de civilisation, de culture extrêmement grave. Dans cette crise, pour un Français, dont je suis, j'ai plus vécu en France que dans mon pays, que signifie le respect de soi? Pour moi, c'est un des aspects importants de ce roman. Quand aux deux amis, Giang Ngân et son mari Nguyen Quang Thanh, je n'en parlerai pas, ce sont des relations personnelles. Comme on dit, ça fait partie de la vie privée. Alors, parlons d'elle à travers son œuvre, comme elle nous a parlé, à travers son œuvre et à travers la traduction effectuée par les deux traducteurs à côté de moi.
Non, je pensais qu'elle reprenait tout de suite. Oui. Je te redonne donc la parole, ma chère Charlotte.
Ah oui. Vous n'avez pas encore de questions. Je vais, à mon tour, donner quelques informations complémentaires à ce film. Tout d'abord, je voudrais compléter au sujet de la manière dont la traductrice et son auteur ont travaillé ensemble. Comme vous a dit Giang Ngân dans la vidéo, les mails étaient notre outil principal de communication. Outil d'autant plus très pratique, Giang Ngân est extrêmement réactive. Quand j'avais une question à lui poser la veille au soir, j'étais sûre d'avoir la réponse le lendemain matin au réveil. En revanche, Giang Ngân n'a pas parlé des voyages que j'ai effectués au Vietnam et surtout à Cang Tho. En effet, j'avais senti le besoin d'aller sur les lieux du roman, voir les paysages, rencontrer certains personnages décrits dans le roman. Bien que je sois d'origine vietnamienne, j'ai vécu à Saigon, donc le contexte, le mode de vie dans la région du sud-ouest, dans le delta du Mékong, m'était complètement inconnu, voire étranger. Zagan m'a donc emmené sur les lieux du roman. Nous sommes allés à Dinbao, puis à Dibva. Et de là, nous avons pris une barque pour rejoindre le village Vin, comme dans le roman. Nous avons parcouru la rivière Kai, bordée de palmiers nipa et encombrée de jacinthes d'eau qui freinent, ces jacinthes d'eau freinent les déplacements et qui ont failli coûter la vie à Tip, les ruines du roman. Comme dans le roman, nous nous sommes déplacés, Zagan et moi, partant de pluie, pieds nus, sur des chemins de terre extrêmement boueux, chemins qui nous amènent vers la maison familiale, maison avec des toits faits de feuilles de nipa séchées. Alors, pour illustrer ces propos, je vais vous montrer trois photos. Voilà, la première photo, c'est la fameuse rivière Kai que vous trouvez dans le roman, avec ses feuilles nipa, ses palmiers nipa et les jacinthes d'eau. Si vous pouvez nous montrer la deuxième photo. Voilà. La deuxième photo, cette photo nous montre un paysage. Alors attendez, si je parle, vous n'avez pas mon temps. Un paysage de campagne, partant de pluie. Ne mords pas de moi. Partant de pluie, vous voyez ces arbres courbés par le vent, comme nous a décrit. Zagan dans son roman. Alors, si vous pouvez nous passer la troisième photo. Voilà. Cette photo nous montre des personnages comparables à ceux du roman. Ces personnages vivent à la campagne. Certains d'entre eux ne portent pas de chaussures. Et comme vous le constatez, la dame qui est au milieu de la photo a les pieds déformés parce qu'elle a toujours marché pieds nus toute sa vie. Voilà. Vous voyez, pour traduire, j'ai ressenti le besoin de voir, d'entendre, de sentir, de m'imprégner de cette atmosphère si étrange. Alors, pour traduire une atmosphère aussi étrange, ceci m'amène à vous parler du deuxième point, du rapport à la traduction. Dans la vidéo, Zagan a cité les qualités du traducteur. Mais dans son livre, à la page 291, elle va plus loin. Elle définit, je dirais, une sorte d'éthique du traducteur. Je la cite. Pour traduire, il faut s'échapper du mot à mot et se montrer créatif à condition de respecter l'original. Et bien, cette approche permet de me positionner de positionner ma propre conception de la traduction. Permet de préciser les objectifs que j'ai cherché à atteindre dans ma traduction. En fait, dans mon projet de traduction, traduire, c'est respecter l'original, comme dit Zangan. Mais qu'est-ce que cela signifie, respecter l'original ? C'est, pour moi, c'est respecter le caractère littéraire, déjà, du texte d'origine. C'est respecter la forme du discours, son rythme, sa musicalité. Respecter l'original, c'est pour moi respecter l'étrangeté du texte. Ce qui... Oui. Tu veux que je...
On sectionne un petit peu.
D'accord.
Bien. N'hésitez pas s'il y a des réactions à chaque moment. Juste après, il y a un truc encore mieux. Une traduction, c'est une contribution à la langue et à la littérature vietnamienne, même en français. Ce que tu fais de la littérature vietnamienne, c'est quelque chose que tu ajoutes à la langue et à la littérature française. C'est ça qui est absolument passionnant. Peut-être que tout le monde n'a pas encore le texte en tête, donc peut-être simplement pour que vous puissiez suivre quand même une partie de ce qui vous est dit. Ce texte, c'est un portrait de femme, une trajectoire de femme, qui est aussi minuscule, fait 38 kilos, je crois.
Oui, ouais.
Je me souviens du moment où elle fait 38 kilos. Voilà. Et donc, c'est pas forcément Zorro ou Superwoman, mais elle a une volonté absolument de faire, et cette volonté se traduit dans le fait que elle est mal mariée, la guerre est terminée, elle n'a plus à subir les pressions des uns et des autres, elle prend un amant ou quelqu'un qu'elle rencontre une fois tous les 5 ans, et elle décide qu'elle a ce droit-là. Et toute la famille confucianiste, l'écrase. Dit non, t'as pas le droit. On a tous cela. C'est la honte générale. On est tous totalement déshonorés. Et elle prend vraiment, vraiment énormément de coups. Et ça se traduit géographiquement par le fait qu'elle est du fin fond du sud. Lui est installé au nord. Et chaque fois, il y a ce trajet sud-nord, sud-nord, qui est en même temps, si j'ai bien compris, lecteur extérieur, une des colonnes vertébrales fondamentales de compréhension du Vietnam actuel, parce que la réunification, c'est une chose, la réunification de fait, et d'ailleurs, est-ce qu'il y avait unification avant, j'en sais rien, mais ça se pose dans d'autres pays, toutes ces questions se posent, mais elle décide, comme un jeune coq, sauf qu'elle, c'est une jeune poule, décider qu'elle prend en main le monde, son pays, elle décide qu'elle a une trajectoire unique et que le reste doit s'y plier. Et au fur et à mesure que ses projets n'avancent pas, elle se rend compte qu'elle est en fait dans un cycle qui est beaucoup plus commun et beaucoup plus général qu'elle ne le croit, et que sa trajectoire unique, qui consiste à retrouver son amant, un jour se heurte au fait que sa fille lui téléphone en disant que son propre mari a pris une maîtresse. Et au lieu d'être cette ligne droite de la volonté pour s'en sortir, sortir du pays, de sortir de la guerre, en fait, on a le cycle du renouvellement de la vie, où chacun retombe. Retombe, c'est même pas... Le mot est négatif, c'est pas forcément tomber. Chacun doit en passer par des expériences de formation individuelle qui peuvent, vu de l'extérieur, être chaque fois rigoureusement les mêmes et rigoureusement répétitives. Mais en même temps, tout ça est fait, non, c'est pas du tout une leçon, c'est d'une sensualité extraordinaire. Vous avez tous les cinq sens, vous avez toutes les odeurs, ils n'arrêtent pas de bouffer, vous avez la composition des plats, quand ils vont aux toilettes, ils vont aux toilettes, quand ils boivent, ils boivent, quand ils caressent une peau, elle a une odeur, elle a un toucher. C'est extraordinairement sensuel comme texte, c'est pas du tout une leçon d'histoire du Vietnam moderne. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend sur le Vietnam moderne?
À moins que vous ayez une question avant, ce que dit Patrick est intéressant, mais il voit que le côté féminin, c'est vrai que Thiep est l'auteur principal, mais dans le fond, son amant a le même problème. Il est lui aussi marié avec une... avec une, un peu quelqu'un qui est le correspondant du mari, en fait, de Thuyen. Et donc, c'est une double histoire vue du côté féminin, du côté masculin, avec les contraintes, effectivement, de la société, mais qui ne sont pas uniquement confucéennes, parce que le poids du parti, et en particulier des gens qui sont en dehors des moules, est assez puissant, et elle est pratiquement exclue à un moment donné. Enfin, exclue. Je pense que ce qui est aussi intéressant, et ce qu'a dit Patrick, c'est que c'est une femme qui est extrêmement spontanée, réelle. Et dans une des éditions vietnamiennes, qui malheureusement n'est pas reproduite dans la dernière édition, il y avait tout un tas de commentaires. Bon l'œil, bing, cho, yadin, bémon. Donc trois commentaires pour Zadine Bémon. Et dans un de ses commentaires, qui est l'édition de 2006, il y a un texte de quelqu'un qui est déjà venu au Langzo. Si vous êtes, je ne sais pas si la Bulac a récupéré ses enregistrements, mais il est venu faire une conférence au Langzo. Parce qu'il faut vous dire qu'à une certaine époque, il n'y a pas très longtemps, j'étais responsable du vietnamien aux langues orientales. Donc c'est M. Huang Ngoc Hien. Et je reparlerai de lui, parce que lui, c'est la littérature Eum, la littérature Zhuang. Je suppose que dans l'assistance vietnamisante, et même avec mon collègue, on pourra peut-être avoir des discussions là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que le personnage principal de cette œuvre, c'est une... il le dit en vietnamien, Nguyen Vat Nu, Nu, la Khoai Tân, Nu, à poil. Et en fait, les propos de Patrick m'ont fait penser à ça, c'est vraiment un personnage nu, et qui est dans sa plus stricte nudité, bien sûr intellectuelle, encore que dans le roman, on voit à plusieurs moments qu'elle se dénude, exactement. Donc cette idée de personnage nu, je crois, doit être aussi un peu le fil conducteur pour mieux comprendre Thiep. Crichton, hein, qui est dévêtu. Désolé.
Du tout. Charlotte, tu veux reprendre
je vais,
la balle au bon.
Je vais reprendre surtout...
Ah oui. Je dois vous parler de l'écriture de Zhang Yun, parce que tous ces messieurs nous parlent de Zhang Yun, mais c'est surtout son écriture qui me tient à cœur. Zhang Yun m'a raconté une autre anecdote. Un écrivain, quand il écrit avec ses cinq sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, et avec deux sens supplémentaires. Vous n'avez pas dit, hein, les deux sens supplémentaires.
De les laisser.
C'est sa tête et son cœur. Et de ce fait, l'écriture de Zhang Yun est vivante et sensuelle. L'écriture de Zhang Yun sollicite de l'imagination, mais en plus de l'attention du lecteur. Mais oui, la narration, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas chronologique. Ses souvenirs sont évoqués au gré du souvenir, des idées qui lui passent par la tête, des sensations, justement, son cœur. Pour bien illustrer pour bien se rendre compte de son écriture, je vous propose d'en lire quelques extraits. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis tout à fait d'accord. Puis comme je n'ai jamais dit non à une femme.
Non, ça c'est en français. Non, je vais vous lire en vietnamien.
Hai cam từ phòng thu lĩnh đi sang tầm thước uyển chuyển rạng rỡ như một con báo giữa bầy gà ánh mắt bao quát, ban bố và tận hưởng lắng nghe sự im lặng đột ngột trong phòng như một vị thầy biết đám học trò kia đang làm lại trật tự vì mình. Thỉnh thoảng, ông ta nhìn ra chỗ thiệp đứng, một đường mắt của vua với một thần dân đặc biệt. Và hôm ấy, hôm thiệp đang nhớ đây thật là một ngày đặc biệt. Trưởng ban đi giữa hai dãy ghế, toàn ông và bà, chóp bu để ra thẳng cho tổ thiệp. Bước chân êm như đi dạo và bàn tay mềm như bún, không lạnh, không ấm, không thân nhiệt, cũng không để lộ cảm xúc. Bàn tay chính sách chìa ra. Thế nào, nhà văn trẻ?
En fait, c'est un extrait qui Zangan nous décrit le portrait d'un personnage. J'invite mon ami Claude à vous lire le passage en français.
Oui, voilà. Les trois extraits ont pour objet de vous donner un panorama du style et de la variété de style de Zangan. Un portrait d'abord, ensuite elle parlera de sa vocation avec un fond lyrique, des accents lyriques, et un dernier extrait vous décrira les tracasseries administratives que devaient subir à une certaine époque les Vietnamiens. Donc voilà pour l'extrait, le premier extrait, qui est celui d'un personnage, d'un notable important et conscient de son importance. Ai Kham sortit du bureau de la direction, s'avança, de taille moyenne, souple, rayonnant comme un félin dans un attroupement de poules, le regard éclatant et dominateur de celui qui détient le pouvoir de décider. Il savourait avec délectation le silence soudain de la pièce, à l'image du maître dont l'entrée est honorée par le retour au calme de ses disciples. De temps en temps, il regardait vers l'endroit où Tip se tenait, avec le regard arrogant d'un roi pour un sujet particulier. Ce jour-là, un jour dont Tip se souviendrait désormais comme d'un jour vraiment spécial, le président du comité s'avança entre deux rangs de sièges, tous occupés par de gros bonnets, hommes et femmes. Il se dirigea droit sur Tip d'un pas détaché de promeneur, la main molle comme une nouille, ni froide ni chaude, n'exprimant ni sentiment ni émotion, et tendit vers elle sa main d'homme politique. Comment va notre jeune auteur, etc.
Je vais vous lire le deuxième extrait. Văn chương với nàng giống như một thứ tín ngưỡng hơn là thứ phương tiện. Nàng không biết nó đến với nàng từ đâu, từ ngọn gió rào rào nước lớn dưới bến nhà, hay từ bóng chim và tạm cá trong mảnh vườn hương hỏa, từ mùi rơm của cánh đồng sau ven vườn dẫn sang chân trời bên ngoài, hay từ lũ lục bình muôn thuở của con sông cái, từ bộ diên sáng của người cha mà nàng chỉ nhớ mang mảng, hay từ những phẩm chất đặc biệt của cô ràng, từ sự tương giao bí ẩn với chú Tư Thọ, hay từ nỗi mồ côi hồi thơ bé, từ sự mất mát tuổi trẻ, hay từ sự lựa chọn bí ẩn nào. Văn chương đã mon men rủ rề nàng từ hồi còn nhỏ, tiệp cuốn tròn cuốn tập học
trong tay, bước đi dưới vòng cây trong vườn, rồi nó biến thành sự nghiêm cảnh thường trực khi nàng làm một bài văn trong lớp, hay lúc ôm một cuốn sách bất ngờ bắt được. Cuối cùng nó chiếm lĩnh toàn bộ nàng, thiết kế số phận và đẩy nàng đi, đi mãi.
Donc il s'agit d'un passage où Tip, le personnage principal, décrit son goût pour la littérature, sa vocation pour la littérature. La littérature était pour Tip davantage une religion qu'un métier. Elle ne savait pas d'où lui venait cette vocation. De la brise annonçant la marée montante au pied de l'embarcadère de sa maison, ou du parfum fugace des fruits et de l'encens offerts au culte de ses ancêtres. De l'odeur de chaume des champs derrière leur verger menant à la maison de sa famille maternelle, ou des nappes immuables de jacinthe d'eau de la rivière Kai, des talents de son père qu'elle n'avait pratiquement pas connus, ou des qualités exceptionnelles de Tang Jiang, de la fréquentation secrète de l'oncle To ou de son enfance d'orpheline, de sa jeunesse perdue à la guerre ou d'une quelconque grâce mystérieuse. La littérature était entrée en elle petit à petit, dès son enfance, durant laquelle, son cahier roulé dans sa main, elle marchait sous le feuillage des arbres du jardin. Puis, elle s'était installée d'une manière concrète et permanente quand elle rédigeait un devoir ou quand elle serrait tout contre elle un livre trouvé par hasard. La littérature avait fini par s'emparer complètement d'elle, l'avait poussée vers son destin, l'avait poussée toujours en avant.
Je crois que l'animateur...
D'accord. Oui, j'utilise l'autorité inhérente au dictateur pour couper le troisième extrait. Je suis désolé, on en veut tous 12, mais il y a tellement de questions à aborder. Si vous voulez prendre la parole, vous n'hésitez pas, n'importe quel moment. Mais mon voisin me tire la manche et va finir par déchirer ma seule veste pour poser un certain nombre de questions qui sont des questions qui sont en débat avec Charlotte et Claude depuis fort longtemps. C'est donc une sorte de débat en cours que l'on vous propose auquel on vous propose de participer maintenant.
Débat en cours, très bien. En fait, c'est...
Bah oui, j'ai toujours raison, c'est terrible.
Débat en cours, si vous voulez, moi, je crois pouvoir dire que c'est pour moi presque un instant de bonheur ce soir. Bonheur, bien sûr, relatif.
Merci.
Oui,
merci.
Parce que Charlotte, comme Claude d'ailleurs, et peut-être certains parmi vous aussi, ont été mes étudiants et nous avions, vous savez, 5 ans. Et la dernière année, en Master 2, il y avait un séminaire qui s'appelait Littérature et traductologie, à partir justement des romans français, des romans vietnamiens traduits en français. Donc, je dois dire que je suis particulièrement content de voir que, c'est une tradition qui va, j'espère, se mettre en place et que d'autres suivront. Parce que, comme l'a dit M. Famuizhong, c'est très important d'arriver à présenter au public français des œuvres qui sont souvent relativement inaccessibles, j'entends. Non pas, elles sont toutes traduisibles, bien entendu, mais dans leur portée et dans ce qu'elles véhiculent comme vécu, on verra à plusieurs reprises, ou du moins vous avez déjà entendu, que ce roman est un roman qui est fort, un roman puissant. Et je ne peux pas ne pas évoquer d'autres personnages féminins qui ont aussi été traduits en français, qui est une invitation pour ceux qui ne l'auraient pas fait à les lire. Je pense à Pham Thi Roy, je pense bien sûr à Zung Thu Hung, qui a été traduit et qui continue... Plus par vous, mon cher collègue, mais qui est traduit, je dois dire, avec peut-être moins de virtuosité que vous, donc de Zung Thu Hung, Pham Thi Roy, et puis d'autres auteurs, en particulier Pham Thi Van Nhan, etc. Bien. Donc, c'est vraiment, je crois, important de pouvoir essayer de partager, en particulier avec les étudiants, cette expérience. Donc moi, ce que je me propose de dire, c'est de me mettre à la table du traducteur, d'imaginer, en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on est effectivement à la table. Alors, quand vous êtes à la table, il y a un avant, il faut mettre la table, si je puis dire. Ensuite, il y a pendant et puis il y a après. Donc, ces trois aspects qui vont peut-être vous donner une idée peut-être plus claire de ce que pourrait être un travail de traduction pour ceux, bien sûr, qui envisageraient de se lancer là-dessus ou qui sont peut-être déjà lancés là-dessus. Mais avant de venir à ces trois faits, ces trois instants, brièvement, je voudrais citer un colloque qui s'est tenu ici dans le cadre de la Bulac, c'était les carreaux de la Bulac, et il a été dit « Créer une littérature mondiale, traduite, qui soit aussi fidèle que possible à l'esprit de la version originale, quelle que soit la langue de traduction. » C'est l'objectif que se sont fixés ceux qui, comme Olivier Manoni, qui est le responsable de l'école de traduction du Centre national des livres, du livre que vous connaissez peut-être, fondateur donc et directeur de la jeune école de traducteurs littéraires du CNL, œuvre pour une excellence de la traduction littéraire. C'est donc en avril 2014, assez récemment, à la Bulac. Et Manoni disait dans son propos, l'enjeu de la traduction est celui de la transmission d'une culture de tout ce qui n'est pas dit, mais qui est bien véhiculé entre les lignes d'un texte. Et je crois que là, on peut dire que, oui, j'oserais presque le dire, Charlotte Dang a bénéficié de ce que j'ai pu dire, et je sais que dans le séminaire, j'insistais beaucoup sur cet aspect passeur, go-between, médiateur. Ceci dit, bien entendu, le principal, je pense, le principal aspect d'une traduction, c'est quand même sa valeur littéraire. Hein? Et on assiste malheureusement à des traductions de romans vietnamiens, car la traduction des romans vietnamiens se porte bien. Vous avez les éditions Rive-Neuve, je ne sais pas s'il y a des représentants des éditions Rive-Neuve ici. Je sais qu'actuellement, la responsable de la section vietnamienne de Rive-Neuve, Madame Doan Poisson, a aussi fait beaucoup pour la traduction, mais une traduction qui est moins orientée, qui est plus, disons, allez, mondialisante. Hein. Je ferme la parenthèse. Mais je crois qu'on ne peut pas séparer d'une connaissance du pays, d'aller sur le terrain, de discuter avec l'auteur, d'in fine de la qualité, si vous voulez, littéraire du rendu. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qui nécessite peut-être un travail en binôme. Alors, je ne dis pas que le travail en binôme qui a été fait avec Charlotte et Claude, l'un s'est arrogé cet aspect et l'autre plus que l'autre, mais je pense que ça a dû aider au rendu final, qui est un rendu littéraire très intéressant et qui, je crois, dans la bouche d'un expert en traductologie, est un livre que vous devez lire rapidement si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour Charlotte, je crois, ce qui a été, c'est apporter un souffle littéraire, mais un souffle littéraire venu, et là, c'est une situation particulière pour les gens qui sont intéressés par la littérature vietnamienne, ce que bien souvent, pour nous, en tous les cas en France, et même les jeunes générations, ont été plus ou moins bercés entre guillemets, par le Vietnam. Donc, il y a un retentissement particulier quand il s'agit du Vietnam et de la traduction vietnamienne, et rien de tel pour les romans, pour apercevoir, comme vous l'avez dit, ces mutations de la société, que de lire des romans. Hein, je ne sais pas si vous avez écouté Fabrice Lucchini un soir, qui s'est mis en colère aux 20h, et il disait d'une manière extrêmement forte que pour comprendre, pour connaître, il faut lire la littérature. Et il parlait de littérature mondiale comme de littérature française. Donc, je vais essayer d'aller vite, parce que le temps tourne. Avant, bien entendu, il y a la préparation, parce que quand vous vous lancez dans un travail de traduction, vous ne mettez pas tout de suite à la table. Alors, il y a la formation, j'en ai un peu parlé, je ne reviens pas, mais il y a aussi la prise de conscience que vous allez travailler sur un texte d'une langue dite rare et surtout d'une langue qui a une distanciation par rapport à la vôtre qui est importante. Et ça, c'était un des points que l'on a beaucoup discuté, parce que
Il faut dire que Charlotte et Claude ont fait le M1 et le M2 sur la traductologie en particulier. Et là, je dois ne pas oublier de rendre hommage à Madame Letou, qui est, si je me souviens bien, la personne qui nous a initiés, moi, comme Charlotte et Claude, à cette femme du Sud qui est Zhang. Et donc, la préparation, c'était un cycle universitaire qui a débouché sur, qui s'est concrétisé. Ensuite, vous avez le contexte personnel. Il se trouve qu'effectivement, par son, disons, par son vécu personnel et bien sûr son intérêt pour la culture vietnamienne, Charlotte était tout à fait disposée à aller dans le sens de la traduction. Et puis, après, il se pose la question, quand vous voulez traduire, le choix de l'œuvre. Hein, et ça, le choix de l'œuvre, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas traduire n'importe quoi, on doit traduire par rapport probablement à son tempérament. Je ne suis pas étonné que Charlotte ait choisi une femme, donc un écrivain femme, qu'elle ait choisi un roman qui, dont le personnage principal est une femme, et surtout, et là je reprends un petit peu le propos de Huang Nguyen, Huang Nguyen a dit, il y a deux littératures au Vietnam qui se sont superposées et qui maintenant, un peu dans cette histoire de cycle, hein, de temps circulaire, se poussent et se repoussent et viennent au devant de la scène, plus ou moins, selon les circonstances. C'est la littérature Eum et la littérature Zhuang. La littérature Eum, c'est celle que a choisi Charlotte de traduire, c'est la littérature de l'intuitif, de l'individu, par rapport à la littérature Zhuang, qui est la littérature de du collectif, du matérialisme, la littérature de force. C'est une littérature qui a toujours existé au Vietnam. Au Vietnam, une littérature qui était, disons, une littérature qu'on pourrait qualifier de propagande, sans que ce soit négatif. On pourrait presque paraphraser que la littérature Zhuang en Corée du Nord, en ce moment, c'est quand même bien vu. Hein? Alors, Zhuang, pour ceux qui seraient un peu étonnés, pourquoi eux, mais pourquoi Zhuang, en fait, c'est yin et yang. Hein? Donc, c'est la littérature lunaire et la littérature solaire. Bien, donc, et lorsque, là, je vous invite à le dire, j'étais un peu déçu, mais c'est mon côté prof, qu'on n'est pas inclus dans la traduction, je suppose que les éditeurs n'auraient pas voulu, ces commentaires qui ont été faits dans cette édition de 2006, parce que ça serait très intéressant. Mais les étudiants pourront éventuellement les traduire. Maintenant, lorsque vous avez à entreprendre un travail de traduction, vous allez vous mettre à votre table, il faut faire l'état des lieux. Et comment est-ce que ce roman a d'abord une notoriété dans son pays, quel public je vais pouvoir viser avec ce roman, et surtout, est-ce que ce roman a été traduit? Alors, en général, il n'a pas été traduit en français, si on se lance une traduction en française, encore qu'on voit parfois des traductions doubles, si je puis dire. Et là, il existe une traduction américaine dont Madame Zhangen a parlé avec Rose Marie Crow, qui est une... alors, son nom de famille, c'est un nom américain, enfin, d'origine polonaise, probablement. Et elle est Hieu, elle est mariée, elle a un enfant, elle vit à Hanoï. Donc, elle est dans un binôme, si vous voulez, une personne qui a appris le vietnamien sur place et qui a pour mari quelqu'un qui est parfaitement vietnamisant. Et donc, c'est important d'avoir ce binôme. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que si j'ai parlé de la littérature, de l'approche littéraire sourcière, c'est-à-dire celle qui est proche de la source, une théorie que les étudiants ont déjà entendue, et peut-être en dehors des langues eaux, c'est la théorie qu'a préconisée dans pas mal d'articles et d'ouvrages Jean-René Ladmiral, qui est un philosophe traducteur, qui était prof à Nanterre. Et par rapport à l'approche sourcière, il y a l'approche cibliste. On peut dire que Charlotte Dang a choisi une approche sourcière réfléchie. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que là, on a un cas d'école extrêmement intéressant en matière de traductologie. On a une approche sourcière faite par quelqu'un qui connaît bien la culture source, si vous voulez, et on peut dire que la culture source du Sud est un peu particulière. Je ne reviens pas sur les différences entre le Nord et le Sud. Et une traduction qui est cibliste, pour le moins. On est dans une littérature intime. La version américaine, c'est une œuvre qui a été recomposée, mise en tranches, historique, chronologique, pour que peut-être les lecteurs américains, pas très familiers, je l'ai failli dire un autre mot, puissent comprendre. Je trouve ça, pour ma part, scandaleux. Et je suis très content, bien entendu, que Charlotte n'ait pas suivi. Alors, il se trouve que Claude, qui a donc participé amplement d'abord au cours et puis après à la traduction, je crois, hein, puisque les masters ont été faits aussi en commun, a pas mal travaillé sur, justement, ce qui est intéressant pour la traduction, ce cas typique entre une œuvre qui est sourcière et une œuvre qui est cibliste. Je vous laisse la parole. Malheureusement, ça sera assez bref parce que enfin, moi, je n'ai pas du temps.
Écoutez, merci. D'abord, je voudrais dire une chose. J'ai participé à la traduction, mais de manière très modeste, puisque j'ai travaillé avec Charlotte sur la traduction de 3 chapitres, le temps de mon master, 3 chapitres sur 20, c'est pas beaucoup. Et on a fait à cette occasion un travail à 4 mains. Alors, c'est-à-dire qu'on a travaillé à 2 sur la traduction, mais on aurait pu penser que l'un, par exemple, moi, aurait pu traduire en vietnamien et Charlotte peaufiner le français. Mais c'est pas comme ça, ou l'inverse. Mais c'est pas comme ça qu'on a procédé. On a dupliqué totalement le travail. C'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, fait une traduction de A jusqu'à Z, chacun de notre côté. Ensuite, on a confronté nos approches. Ensuite, on a essayé de faire une synthèse, d'aboutir à une solution. Et ça ne se faisait pas du premier coup. Donc, ça nécessitait du travail. On revenait une fois, deux fois, trois fois. C'était un travail assez long. Voilà, donc un travail à 4 mains pour la traduction. La traduction, c'est aller vers l'autre, comprendre l'autre dans sa langue, dans sa mentalité, dans l'énonciation de son texte. C'est comme ça qu'on a compris la traduction, mais traduire à 4 mains, l'autre est double. C'est l'auteur et c'est l'autre traducteur. Donc, ça nécessite vraiment de sortir de soi, de s'ouvrir vraiment. Et ça nécessite beaucoup, beaucoup de temps. Alors, j'insiste là-dessus. C'est comme ça demandait beaucoup de temps, je n'ai pas eu la patience d'aller jusqu'aux 20 chapitres. Voilà. Maintenant, oui, vous c'est vrai que je me suis aidé dans la partie qui était la mienne, sur ces 3 chapitres. Et je me suis aidé de la version anglaise. Et j'ai lu l'ensemble de la version anglaise, comme j'ai lu l'ensemble de la version vietnamienne et française. Alors, la version anglaise, est-ce que c'est cibliste ? Oui et non. Oui, en ce sens que la traductrice a fait preuve de création et a apporté une vision, une logique. Elle a essayé de rationaliser l'histoire en la remettant dans une chronologie historique. C'est ainsi qu'elle a scindé son roman, le roman, en 3 parties. La première s'appelle Libération. La deuxième s'appelle Des cuillères et des trous. En fait, dans le texte anglais, je m'excuse, j'ai lu, me semble-t-il, mais c'est un souvenir, des cuillères et des trous, mais c'est vrai que les cuillères étaient trouées. Mais en fait, ce que je voulais dire, cette partie-là, signifiait qu'elle décrivait la période de la collectivisation, pour simplifier, hein, Baukap. Et la troisième partie, c'est la, c'est la rénovation. C'était le titre qu'elle a donné. Donc, ce sont trois époques chronologiques de l'histoire du Vietnam. Et à l'intérieur de ces parties, tous les titres, tous les chapitres ont un titre qu'ils n'ont pas dans la version vietnamienne. Et ces titres, et ces titres sont datés. Ce sont des dates. Hein, printemps 82, avril 86, etc. Donc, ça, c'est la première modification. Oui, elle a regretté, mais elle a accepté. Je ne crois pas m'avancer. Elle a regretté. Je sais qu'elle a regretté, mais elle a accepté.
Claude, vous permettez une assise ?
Oui.
Je crois que ce qu'il faut bien savoir, et si vous lisez, hein, si vous aviez le, il y a marqué, donc a novel Zangun, Dagang, parce que c'est pas translated by Rosemary Nguyen, adapted and with an introduction by Wayne Carlin. Mon hypothèse, parce que pour préparer cette rencontre, j'avais écrit à Rosemary, j'ai essayé de la contacter, bon, elle n'a pas encore répondu, malheureusement, c'est pas comme Zangun. Hein. J'aurais peut-être dû passer par Zangun, d'ailleurs. Mon hypothèse, qui me paraît, parce qu'elle a travaillé pendant 2 ans avec donc Zangun, Rosemary, je ne vois pas Zangun acceptant que l'on change l'ordre des chapitres, qu'on en ajoute un, et qu'on ait parfois des transformations du texte, si vous voulez, hein, sans parler de cette vision chronologique. Voilà, c'est tout ce que voilà.
Et je vous dis. Une seconde, mais tout de suite. Mais j'ai formé tellement de sourciers qui sont dans la salle que je suis obligé d'intervenir. L'opposition sourcier-cibliste, ce sont les ciblistes qui l'ont inventé. Ça n'a aucun rapport avec nous. Vous avez deux façons de faire. Ou bien un roman viet reste un roman viet, et vous commencez par vous demander si c'est un roman d'ailleurs. Mais sa vietnamité, son rythme, son odeur, son tout ça, ça doit rester. Sinon, on n'en a rien à faire. On ne va pas aller chercher un roman viet. Ou bien alors, vous en faites un truc incolore, inodore, sans saveur, au passé simple, franchouillard, béret. Dans le premier cas, c'est le traducteur qui a écrit le texte et ça se voit. Et si vous n'aimez pas ça, circuler, il n'y a rien à voir, il y a le bowling si vous voulez. Ou bien alors vous vous demandez, comme la plupart des éditeurs et des lecteurs et des critiques, que le traducteur ne se fasse pas voir, qu'il se cache, qu'il disparaisse. Qui c'est ce mec qui se prend pour Shakespeare? C'est pas lui qu'on veut lire. Ben si, je suis désolé, comme disait Méchenic, comme disait Olivier Manoni qui va parler, ou comme vous dira le 9 octobre, André Markowitz, qui appartient à notre gang, vous n'avez jamais lu Shakespeare, vous n'avez lu que des traductions de Shakespeare, vous ne lirez pas un roman de Madame Non, je vais me planter, je ne voulais pas prononcer son nom, ce roman-là. Vous allez lire leur traduction, ce sont les auteurs de la traduction. Et sourcier, cibliste, tout ça, ça ne peut pas tenir. La question de fond est extrêmement simple. Est-ce que nous allons accueillir ici, est-ce que nous allons être l'auberge de l'étranger? Est-ce que nous allons accueillir un texte vietnamien qui va tous nous enrichir en tant que littérature, en tant que pensée, en tant qu'expérience, en tant qu'ignorance, en tant que langue, ou bien alors est-ce que nous allons tamiser ça à la française? Résultat, nous n'aurons rien appris du tout. C'est ça, l'opposition qui est entre les deux. Alors, on peut choisir son camp après, hein, c'est pas, la question n'est pas là. Tout le monde a le droit à son approche, mais nous sommes, nous, en droit, nous, traducteurs, de dire à nos textes et à nos collègues traducteurs, vous pouvez traduire comme vous voulez, mais dites-nous pourquoi vous avez fait ça. Et d'où la question que nous nous posons avec Marie Vrina, qui est là et qui est la responsable de toute cette pagaille, c'est-à-dire de cette collection. Qui traduit quand on traduit? Parce que le texte que vous avez dans les mains, c'est bien entendu le travail d'un traducteur, voire un travail quadrumane, j'aime bien l'expression, dire une maladie, mais c'est aussi quelque chose qui est passé par les mains
d'un éditeur, d'un auteur qui a pu changer son texte à cette occasion, ou d'une façon de faire locale, l'ainsi nommée littérature. J'ai plein d'exemples sur la littérature coréenne, de textes qui ont été encore plus massacrés que ça, parce que l'essentiel des éditeurs américains, et évidemment pas tous, mais l'essentiel des éditeurs américains décident, ça doit être fait au goût américain. Je connais des écrivains coréens qui vendent le synopsis. Mon histoire raconte que, maintenant, réécrivez-la, et le fameux adapté qui est sur la couverture devrait être quand même une raison pour la réintroduction de la peine de mort en domaine littéraire. Je rends la parole.
Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je n'étais pas un très bon élève. Donc, je vais apporter des nuances, à tout ceci. Et je réponds un tout petit peu à madame. Je crois que Zanyan a beaucoup apprécié de travailler avec Rosemary. Et en fait, ça a été un grand honneur pour elle de voir son livre traduit en américain et en français. Vous voyez, il est question dans son livre de la domination française, de la domination américaine, et constater que les deux premiers pays à traduire son livre, c'est les États-Unis et la France, c'est un honneur. Donc, elle, malgré tout, elle a apprécié, et je crois qu'elle a beaucoup d'amitié pour Rosemary. Ceci étant, j'étais en train de parler de la conception créative de Rosemary, il y a cette rationalisation du temps historique, mais il y a aussi un ressenti de la littérature. Et je vous donne un exemple. Dans le livre de Zanyan, l'entame du livre est la suivante. Alors je vais lire, comme je suis un peu dissipé, je vais lire l'entame du livre de Zanyan et vous allez comprendre la différence avec la version américaine. J'avais fait un petit carton pour un pense-bête, mais je vais lire dans le texte. Voilà, c'est l'entame du livre de vietnamien. Il pleuvait sans arrêt. Il n'y avait que vent et pluie. Une pluie interminable au point que la terre entière semblait sombrer peu à peu dans la rivière couleur café au lait. On était en pleine saison des pluies dans ce coin perdu au fin fond du delta du Mekong, etc. etc. Donc, Zanyan, pour son entame, ce qui est quelque chose... Pardon ? Maintenant, je vais le faire. Elle choisit, Zanyan, de parler de son pays. Ouais. C'est ça son point de départ. Et comme par hasard, la fin du roman, hein, ce n'est plus le sud dont elle parle, mais c'est le nord. Donc, on retrouve ce fil directeur mentionné par Patrick Morus. C'est ça, le livre de Romane, c'est ça son rythme, c'est ça son énonciation. Et dans la version américaine, on dit « L'année dernière, Nam Trung, en fait, c'est le frère aîné de Thip, Nam Trung, mobilisé à la frontière cambodgienne, n'avait pas pu assister à la commémoration de la mort de leur père. La famille l'avait évidemment excusé. En revanche, elle avait considéré que Thip, absente elle aussi, n'avait pas eu l'impudeur de se présenter à la maison. Suite à son manquement aux règles de la famille, consécutif à son divorce.
Je suis sûr d'avoir lu la même traduction. Last year, Thip in disgrace has no dare to attend the father memorial.
Eh bien, c'est ce que je dis.
Pour les amateurs de Polanski, n'oubliez pas que le bébé de Rosemary, Rosemary's Baby, est probablement le fils du diable.
Alors, si vous voulez que je fasse du mot à mot, je peux le faire. L'année dernière, type, en disgrâce, mais ça revient.
Ce qui est important, c'est que l'entame du roman, c'est le personnage principal qui est en disgrace,
Disgrâce.
En disgrâce. Mais ce n'était pas tout à fait ce que je voulais dire. Donc, moi, ce que je voulais dire, l'entame anglaise voulait poser le problème dans la famille. elle parle de, du frère qui, à qui on pardonne tout, et elle parle de type qui a un problème avec la famille. Donc l'entame, c'est ça pour l'anglais. On pose le problème de dissension, de dispute à l'intérieur de la famille. Voilà, ces deux conceptions, en tout cas, ces deux conceptions me font penser, si vous voulez, à une pièce dans une maison où on trouve les mêmes mots, les mêmes meubles, les mêmes tableaux, mais disposés différemment. On met le focus sur certains meubles, sur certains tableaux, dans la version vietnamienne, le focus n'est pas le même dans la version anglaise. Donc, pour en revenir à ce qui m'importe aujourd'hui, et c'est de parler d'une bien modeste famille, la démarche de Charlotte a été de dire, ben, je vais être fidèle non seulement aux épisodes, à la trame du livre, donc au sens, parce que c'est le même sens, si vous voulez, dans la version anglaise et française, je devais être fidèle non seulement au sens, mais au séquencement de l'histoire, à la manière dont l'histoire est énoncée à son rythme. Voilà. Il y a là une différence, je ne sais pas si c'est sibliste ou sourcier, mais on a essayé de coller au mode et à la forme du texte vietnamien.
Oui, c'est la déontologie plus simple.
C'est la base, il n'y a pas de discussion. Il y en a un qui est peut-être, vous avez peut-être réussi le texte, l'autre ne l'est pas. Quand tu dis, on a changé les meubles de place ou de pièce et ce sont les mêmes meubles, non. Je ne sais pas, mais j'ai en train d'imaginer le lit conjugal chez moi mis à la cave, j'ai l'impression que ce ne seraient pas les mêmes épisodes qui s'y dérouleraient. Non, je ne sais pas, non. Je m'adresse à d'autres qui ont des expériences sans doute différentes, mais non, ça ne peut pas être la même chose. Encore une fois, ce texte, il a son rythme, et il y a parmi les intervenants, le traducteur, l'éditeur, l'auteur éventuellement qui en profite pour réécrire, les mentalités, la façon de faire à une époque donnée. Ces gens-là peuvent tous travailler extrêmement bien, et je connais des gens qui travaillent très bien dans toutes ces catégories. Et puis, il y a la catégorie marchand de soupe. C'est excellent pour la soupe. C'est excellent pour la soupe. J'adore la soupe, mais qu'on ne me dise pas que c'est un roman vietnamien. C'est tout. La différence est extrêmement simple. Sur le fond, on est d'accord. On est absolument d'accord. Ils font autre chose que le texte qu'on leur a donné comme mission de rendre dans une autre langue littérature. Ils l'ont adapté. C'est très bien, c'est adapté. Bravo, vous avez le droit. Continuez. Mais par pitié, ne venez plus dans les débats sur la traduction. C'est pas à toi que je parle, Claude. Ces gens-là, tous ces gens qui commencent ces bouquins, les traducteurs qui commencent ces bouquins en disant la traduction est toujours décevante, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas traduire. Mais faites autre chose. L'agriculture manque de bras. Vous connaissez beaucoup des gens qui vont à un métier, le pilote qui prend son avion qui dit « je sais pas trop conduire ».
Ils sont en grève de toute façon.
« Je sais pas trop piloter ».
13 000 euros par
an. Vous prendriez l'avion ? Je ne pense pas. Alors ne lisez pas le livre. Ne lisez pas ça.
D'autant plus que juste un point avant de passer la parole à M. Famuizong, qui avait levé le doigt que vous n'aviez pas vu.
Ce qui m'a aussi beaucoup choqué, c'est que dans les premières lignes, la version américaine adaptée par ce Carling là, il a une vision historique. C'est-à-dire qu'on replonge dans la guerre du Vietnam. C'est plus le sud, le delta du Mékong, les pluies, le coin perdu au fin fond, c'est la guerre du Cambodge. Et là, le lecteur, il est plongé tout de suite, non pas dans l'extraordinaire luxuriance qu'on a vue, et puis paisibilité du delta du Mékong en temps de paix, il est plongé dans la guerre du Cambodge. Quel est l'intérêt de la guerre du Cambodge, si ce n'est qu'effectivement le frère a fait la guerre du Cambodge, et que d'ailleurs Zan Nguyen a été en tant que reporter de guerre, et j'attends de lire, parce qu'elle doit écrire un livre sur sa vision de la guerre du Cambodge, parce qu'elle a été, au titre de sa fonction au Van Nghe, hein, Arts et Lettres, qui est le journal officiel de l'Union des écrivains vietnamiens, elle a été plusieurs fois au Cambodge.
Monsieur Zhu, oui, je vous en prie.
Oui, je vais oser mettre mon petit mot dans un débat qui se déroule sur un terrain miné. depuis fort longtemps, qu'il restera sans doute encore longtemps. Pour être concret, tout à l'heure, en écoutant Charlotte dans dire pourquoi elle a traduit ce livre, j'ai remarqué qu'elle a dit 4 ou 5 fois de suite « j'ai aimé ». Ah, je suis heureux pour elle. Quand on a aimé, quand on aime, on reçoit toujours quelque chose d'autrui. Et par pure coïncidence, j'ai écrit un texte sur la traduction, bon, malheureusement vietnamien, où j'ai eu l'audace, ou bien la bêtise, d'affirmer que si on veut traduire un texte littéraire en un autre texte littéraire, j'insiste sur le mot, dans une autre langue, il faut savoir aimer 3 choses. Je suis parti d'une remarque extrêmement banale. Qu'est-ce qu'une œuvre littéraire? C'est ça. Mais ça, c'est une masse de papier barbouillé d'encre. Il n'y a pas d'œuvre dedans. L'œuvre littéraire commence à exister avec la lecture. Malheureusement, si nous prenons 3 personnes qui ont à peu près la même culture, le même niveau et le même milieu, à lire la même œuvre, ils se forment dans leur tête 3 œuvres différentes. Et si moi-même, je vais lire une œuvre plusieurs fois à des moments différents de ma vie, ça ne m'arrive pas souvent, mais ça arrive. Par exemple, Le Petit Prince, quand j'étais enfant. Ensuite, quand j'ai atteint l'âge mûr. Et enfin, quand je suis devenu vieux, dans ma tête, il y a 3 œuvres différentes. Alors, laquelle vais-je traduire? Eh bien, si je veux rester fidèle à la fois à l'œuvre et à moi-même, je vais traduire l'œuvre qui est dans ma tête et dans mon cœur au moment où je prends la plume. C'est pour cela que, d'ordinaire, pour traduire un auteur, je le lis au moins 3 fois. La première fois, sans aucune question théorique sur quelque sujet que ce soit la politique, l'histoire, etc., etc., totalement, comment dire, ingénu. Si je ne ressens pas, je ne dis pas que je comprends, je dis si je ne ressens pas quelque chose qui m'est particulièrement cher, qui me touche et qui me concerne de manière essentielle, même si c'est un chef-d'œuvre reconnu, je n'aurais pas envie de le traduire. La seconde fois que je le lis, alors là, je n'ai plus de sentiments, je veux comprendre. Parce que naturellement, le langage humain est ambigu dans toutes les langues. Et il contient derrière lui tout un passé. Et pour chacun, c'est le passé personnel. Pas le passé abstrait d'une culture, mais le passé personnel, bien sûr, à travers la même langue, la même culture, mais c'est le vécu individuel. Et j'essaie de comprendre autant que faire se peut. Et c'est à la 3e fois, je le relis. À ce moment-là, je peux dire que je connais tout déjà. Je connais l'histoire, je connais les personnages, je connais ce, je sais ce qui a été écrit ici ou là, et je sais même pourquoi une idée qui est exprimée ici sous cette forme a été réexprimée 50 pages plus loin. D'une manière différente, etc. C'est-à-dire comment ce qui l'écriture en s'entassant à travers ma lecture est arrivée à exister en moi au point que je désire. Quel est le mot à dire? Je désire que cette œuvre qui est en moi, elle n'est pas de moi, mais elle est en moi, je désire que cette œuvre-là existe en français. Voilà un processus, et à partir du moment, de ce moment-là, pour qu'elle puisse exister sous ce, en français dans la forme dont je viens de parler, il faudrait au moins que je sache aimer trois choses. La première, c'est aimer les deux langues que j'utilise pareillement. Si je ne les aime pas toutes les deux, de la même manière, comme si elles étaient moi, je ne pourrais pas traduire, dans un sens comme dans l'autre. Heureusement, je sais traduire dans un sens et dans l'autre. La deuxième chose, c'est aimer le texte qui a créé cette œuvre en moi. Je sais bien qu'en France, on a à raison, on traite le traducteur comme un créateur. Il est payé par droit d'auteur, donc il est aussi un écrivain, un artiste et un créateur. Mais seulement, il ne crée pas n'importe quoi. Il est traducteur, il crée un texte au texte qu'il a traduit. Si on n'aime pas et on ne respecte pas ce texte-là, bon, pour moi, il y a un problème. Je ne vais pas me lancer dans des théories. J'en ai lu, mais enfin, lorsque je fais de la traduction, toutes les théories, je les ai oubliées. Et enfin, c'est difficile à supporter. On doit savoir s'aimer soi-même. Amour propre, comme on dit, mais dans un autre sens. Dans un sens du chinois ancien, c'est-à-dire aimer ce qui en nous font de nous un être humain et digne d'être un être humain. Donc ce qu'on aime en soi, lorsqu'on traduit, c'est un moi, mais un moi très particulier. Chacun de nous a je ne sais pas combien de moi, hein. Et en fait, il en a un à travers chaque relation personnelle qu'il peut avoir avec un autre être humain. Et le moi que je veux aimer quand je traduis, c'est le moi qui s'est formé à travers une rencontre avec un auteur et à travers une langue. C'est ça qui est resté en moi. Et c'est ça, je crois, le fond, le cœur même de qui fait qu'un texte, en français, en vietnamien, en n'importe quelle langue, soit littéraire. La traduction littéraire, c'est cela qu'il faut traduire. Le sens, etc., les techniques, le savoir, les notes, etc., c'est très important. Mais le plus important, c'est cela qui fait passer. Et c'est pour cela que ce travail-là passera toujours à travers le cœur et l'esprit d'un être humain. Ce n'est pas possible autrement.
Merci infiniment, c'est très très bien dit. On se sent moins seul dans notre démarche. Tout ça se heurte malheureusement à une chose qui est maintenant le problème de Claude et de Charlotte, c'est-à-dire les conditions matérielles de l'exercice, du travail de traducteur. Le cœur, oui, mais le cœur, il a des dates limites, il a des prix à la page et il a des commandes. Et c'est très, très, très difficile de vivre la traduction dans l'amour du geste qu'on fait. Trop de traducteurs qui le disent, je n'attaque personne, sont dans des situations de soumission à des commandes et dans une vie qui n'est pas du tout une vie de plaisir. Et écrire sans plaisir, c'est comme envoyer des cartes postales pendant les vacances. C'est pas extrêmement jouissif. C'est pour ça que les traducteurs qui sont plus à l'aise, ça ressemble un petit peu aux sportifs anglais au 19e siècle, les aristocrates qui avaient le temps de jouer au tennis. Vous imaginez bien que les gars qui sortaient de la mine, ils n'avaient pas du tout envie d'aller jouer au tennis. Bon, mais c'est un petit peu pareil. Ce que nous demandons aux traducteurs comme effort, comme cahier des charges, c'est pas vivable. Je le reconnais. C'est-à-dire que il faut des journées de 75 heures. Et puis, il faut qu'on s'arrête quand on a envie de s'arrêter. Et il faut que le texte puisse décanter. Il faut qu'on puisse le reprendre 3 mois, 6 mois plus tard. Il n'y a pas d'autre façon de traduire correctement. Oui, mais le métier vous dit, ben non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors après, c'est une négociation qu'on peut avoir avec des éditeurs qui sont quelquefois des vrais éditeurs qui aiment le livre autant que le traducteur peut aimer le texte à un moment donné. C'est justement le cas de cette collection et vous trouverez un deuxième exemple de ça. Alors si je ne suis pas trop bigleux, mais je n'ai pas les lunettes de bigleux, c'est le 18 novembre pour le deuxième livre de la collection lancé par Armand Saint-Sauveur qui est là-haut. Le prochain bouquin sera le roman de Milita Prodanovic. Vous aurez aussi les traducteurs, la traductrice ici sur place, mais entre les deux, n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bulac invite, et elle a bien raison de le faire, André Markovitch le 9 octobre. Si les questions de la traduction, merveilleusement exprimées par quelqu'un qui est un orateur de grand talent aussi, André Markovitch vous intéresse, traducteur du russe, traducteur de l'anglais, et même traducteur de chinois, même si notre éditeur commun n'accepte pas ces manuscrits, vous êtes appuscrit, ce sera, je pense, une séance particulièrement intéressante. Mais ce qui, moi, me rassure, surtout quand je vois nos petits qui ont grandi, on les a connus grands comme ça, même Claude, c'est que cette fusée à 3 étages, un texte qui vaut vraiment la peine, et celui-là, c'est un bijou. Des traducteurs qui se disent « je vais vous faire ça en français, mais ça va rester un texte vietnamien », et un éditeur et son équipe, directeur de collection, etc., qui vont se mouiller la chemise pour que ce texte existe, parce que ça n'est plus un texte, c'est déjà devenu un livre, et aussi, mot affreux, une marchandise, il faut que ça vive, il faut que ça existe. Quand tous ces éléments sont réunis, c'est nom d'un chien, quel beau métier, que le métier de traducteur. Mais alors, maintenant, c'est comme disait Léon Blum, le soir de la victoire, les étudiants la connaissent, le soir de la victoire du Front populaire, enfin, les emmerdements commencent. Vous entrez dans une carrière de traducteur, vous allez voir ce que c'est que des baffes. Maintenant, si vous voulez encore conclure, surtout, n'hésitez pas. Moi, je ne peux que vous exprimer mon admiration quant à la rapidité avec laquelle vous avez intégré, comme l'a dit Michel tout à l'heure, d'abord le savoir culturel viet, savoir où vous mettiez les pieds. Et ce n'est pas parce qu'on est d'origine vietnamienne soi-même que le savoir de cette part de la culture qui va être transformée en un matériau littéraire, ce n'est pas pour ça que c'est connu. Combien de traducteurs sont totalement nuls sous prétexte qu'ils parlent la langue ? Ce n'est pas une question de langue, c'est une question d'une chose irréductible qui se trouve dans la culture et qui s'appelle, faute de mieux en français, littérature, mais une autre fois, on aura peut-être l'occasion d'en parler, il n'y a pas deux peuples au monde qui ont la même littérature, qui lui donnent la même place, qui lui donnent la même importance, et ce n'est pas pour ça qu'il y aurait une hiérarchie entre les deux, et il est bien malheureux qu'aujourd'hui, nous soyons les uns et les autres tellement soumis à ce que vous avez évoqué tout à l'heure en arrivant. Il y a des raisons financières que la raison ignore. Il y a des règles culturelles qu'on impose parce qu'on a le pouvoir. Et les agents de cette mondialisation, peut-être pas très heureuse, ça s'appelle justement des agents. Et qui imposent, qui achètent des textes et qui disent « j'achète à condition que le livre prenne telle forme, il aura telle couverture, si possible, et grillarde, un petit peu de fesses, ça manque jamais, on va changer le titre, et puis la fin, on va la changer parce qu'il faut qu'il se marie. » C'est ça aussi ce qu'on vous donne à longueur de journée, mais heureusement, il y a des héros de l'édition, c'est ça qu'on vous donne à longueur de journée sous le nom de littérature étrangère traduite. Faites attention, si le lectorat, si les lecteurs, si les lectorats ne prennent pas le pouvoir en traduction en disant « j'apprends à lire votre bouquin comme une traduction et je vois bien que c'est de la soupe, je vois bien qu'on se moque de moi », alors il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. La vraie littérature, il n'y a pas de fausse littérature, mais la littérature qui se donne pour telle et qui se donne pour objectif de défendre le droit à dire le monde ne survivra que si les lecteurs disent « c'est ça que je veux ». Vous êtes responsable de la marchandise que vous avez. Vous savez, à la longueur de journée à la télévision, on vous dit si vous achetez des trucs dans les magasins, vous devez regarder derrière s'il n'y a pas des colorants KZ92B7. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas la moindre idée. Mais il faut que vous soyez des consommateurs avertis. En littérature, vous êtes des consommateurs, le mot n'est pas si affreux que ça, mais avertis. Plus vous serez demandeurs, plus vous serez exigeant vis-à-vis du texte, vis-à-vis du traducteur, vis-à-vis de l'éditeur qui a les mêmes responsabilités, les mêmes droits et les mêmes devoirs, et plus, au bout du compte, vous trouverez des textes qui en valent la peine. Et bizarrement, surtout venant de moi, je suis dans ce domaine-là incroyablement optimiste. En tout cas, en France, on a un certain nombre de protections, un certain nombre de chances, à commencer par un statut des traducteurs, qui permet de travailler un tout petit peu à l'aise et qui n'est pas du tout un statut de traducteur qui a été obtenu en se battant contre les éditeurs, mais se battant avec les éditeurs pour obtenir ça du champ économique. Je pense que ces choses-là se développent rapidement et il n'y a pas de meilleur avocat de ce... au pluriel, meilleur avocats de cette situation que... ceux qui décident aujourd'hui de se lancer dans cette carrière, malgré toutes les horreurs qu'on a pu leur débiter, et croyez bien que j'ai été le premier, et aussi ceux qui sont les porte-drapeaux de ce métier. Et je vous renvoie encore une fois à André Markovitch. Je ne fais pas la retape pour quoi que ce soit, mais quand vous avez la possibilité de rencontrer un tel grand écrivain de la traduction, une grande, grande plume de la traduction, le Shakespeare français, le vrai Shakespeare français. Il ne faut pas rater l'occasion. Et toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la traduction, sa vie, son œuvre, ses déformations, ses trahisons, ses escroqueries, ses espoirs et ses gloires, je crois que c'est le bon moment et je vous convie à revenir à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y aura, comme aujourd'hui, un coup à boire après la séance, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'en avez pas, je vous convie à nous rejoindre devant, autour, à côté ou sur un gobelet en plastique.
Eh bien, je remercie tous nos intervenants. Merci Patrick d'avoir fait un teasing si formidable pour la prochaine rencontre autour de la traduction. Je me permettrai juste d'ajouter que cette prochaine rencontre avec André Markovitch, cette carte blanche que nous lui proposons, se fait en partenariat avec le festival VOVF, hein, qui est un festival de traduction tout jeune. C'est la deuxième année, il se tient à Gif-sur-Yvette. Hein, et je vous invite non seulement à revenir à la Bulac début octobre, mais aussi à aller profiter de votre week-end que nous espérons ensoleillé pour vous rendre aussi à Gif-sur-Yvette, rencontrer des traducteurs et poursuivre ces débats. Merci à tous. Et donc, comme vous l'avez compris, et ce n'est malheureusement pas le cas à toutes les manifestations de la Bulac, mais cette fois-ci, grâce à Charlotte et à Claude, donc vous êtes invités à boire un petit verre. Voilà. Merci, bonne soirée.